7. Traqué. Le dîner tirait à sa fin à la table d'hôte du Family House, dirigée par Mistress Grifton, dans la 30e avenue de New York. La vénérable dame, après avoir dispensé d'une main parcimonieuse le plum cake et les marmelades, souleva la cloche de cristal qui recouvrait un capiteux fromage canadien dont l'odeur violente eut pour effet de chasser la plupart des convives du côté du parloir, où l'on avait servi le thé. Mistress Grifton s'apprêtait à les suivre et à prendre une récréation bien méritée en se livrant à la lecture des feuilles du soir, généralement remplies de faits divers émotionnants, lynchage de nègres, enduit de pétrole et grillé vif, électrocution mouvementée, incendie de maison à 30 étages, arrestation sensationnelle de pickpocket ou d'assassin milliardaire, lorsqu'un personnage, minablement vêtu, et dont le nez long et un peu busqué était surmonté d'un lorgnon fumé, fit son entrée dans la salle à manger. Quand il ne se croyait pas observé, il jetait autour de lui, par-dessus son lorgnon, un rapide coup d'œil. Vous voilà encore en retard, fit aigrement la dame. Vous savez cependant qu'une des règles de mon établissement est une exactitude ponctuelle, et ajouta-t-elle après un silence gros de menace, une régularité parfaite dans les paiements. Je sais, fit-elle, que dans votre partie, les gains sont irréguliers, et jusqu'ici vous avez fait ce que vous avez pu pour payer exactement. Puis, changeant de ton et déployant un large numéro du New York Times. À propos, ajouta-t-elle, vous savez que l'on est sur la piste de Baruch Jogel, le fils du milliardaire qui a tué un vieux savant français pour lui voler ses diamants. À ces mots, le convive rougit. Ses yeux battirent derrière les verres de son lorgnon. Pourtant, ce fut avec une parfaite indifférence qu'il répondit. Baruch Jogel ? Oh, je ne connais pas ce nom-là. Vous savez d'ailleurs que je suis si absorbé par le business que je n'ai pas un moment pour lire les journaux. Tenez, insista Mistress Grifton, voilà son portrait. Est-ce qu'il y a de plus amusant, fit-elle avec un rire sonore, c'est qu'il vous ressemble un peu. C'est bien possible, répondit le dîneur, non sans un imperceptible tressaillement. Pour mettre fin à une conversation qui semblait l'agacer prodigieusement, il déploya lui-même un numéro du New York Herald et s'absorba dans sa lecture. Mr. Grifton en fit autant. Puis, bientôt rappelé au sentiment de ses devoirs professionnels, elle alla dans le parloir prendre sa place accoutumée entre le piano et la table à thé. Son interlocuteur expédia son repas en hâte et s'empressa de sortir. Il semblait distrait, préoccupé. Dans la rue, il heurta un gros gentleman à favoris blancs qui sortait d'un bar à la devanture étincelante de glace et de lumière électrique. « Vous pourriez faire attention !» fit jovialement le gros homme. Et, regardant la physionomie alors vivement éclairée de celui qui l'avait heurté, il ajouta persuadé qu'il faisait une excellente plaisanterie. « Ce n'est pas parce que vous ressemblez à Baruch Jogel, l'assassin milliardaire, qu'il faut faire le fier et bousculer les passants !» Il fut tout ébahi que l'interpellé ne répondit à son trait d'esprit que par un juron, et se hâta de disparaître dans la cohue. La soirée s'avançait. Les câbles électriques filaient à toute vitesse dans les vastes avenues déjà désertes. Le client de Mistress Grifton, errant comme une âme en peine, se dirigea vers le quartier chinois. Il se sentait si las, si désespéré, si tourmenté, qu'il lui vint à l'idée d'étourdir ses chagrins en allant fumer l'opium dans un bouche qu'il connaissait et que fréquentaient surtout les émigrants. Chemin faisant, il tâta dans la poche de son gilet l'unique dollar qui lui restait. « Posséder des millions, grommela-t-il avec rage, et ne pouvoir y toucher, c'est à devenir fou !» Et il brandit le poing comme pour menacer un adversaire invisible. Il était arrivé dans les environs du quartier chinois. Il allait s'engager dans une allée sordide, gluante, à peine éclairée par un bec de gaz fumeux. Tout à coup, son attention fut attirée par un rassemblement, au milieu duquel évoluait une douzaine de policemen armés de casse-tête. Pris de curiosité, il se glissa dans la cohue et, s'adressant à un portefeuille de taille herculéenne, qui pérorait au milieu d'un groupe, il lui demanda de quoi il s'agissait. « Rafle de police !» répondit l'homme laconiquement. « On croit, ajouta un autre, que Baruch Jorgel, l'assassin milliardaire, s'est réfugié dans le quartier des Jaunes. »« Je vous remercie !» murmura entre ses dents le pensionnaire de Mistress Grifton. Et il s'éloigna précipitamment du quartier chinois. Il marchait à grands pas, se retournait instinctivement, comme pour voir s'il n'était pas poursuivi. Il fit halte devant la salle d'un cinématographe où s'engouffrait une foule bruyante. Pendant quelque temps, il suivit d'un regard distrait sur le vaste transparent qui occupait toute la façade les allons en hautes lettres lumineuses qui se succédaient de 5 minutes en 5 minutes, avec des alternances d'obscurité profonde et de clarté aveuglante. Tout à coup, une phrase flamboya en lettres sanglantes sur le fond des ténèbres. Baruch Jorgel, assassin d'un illustre chimiste français, reconstitution exacte du crime. L'homme hésita un instant. Un désir irrésistible de voir le film sensationnel s'était emparé de lui. Il fit quelques pas vers l'entrée de la salle, mais arrivé en face du guichet où se distribuaient les billets, il fit une brusque volte-face et s'enfuit. Pendant 1 heure, il marcha droit devant lui, traversant au hasard des rues, des avenues et des places qui lui étaient inconnues. Sur un quai, où des centaines de dockers s'affairaient au déchargement d'un paquebot, il sembla prendre une subite décision. Il pénétra dans un bar et se commanda un cocktail au whisky, puis un second et un troisième. Quand il eut payé, il ne lui restait plus qu'un peu de menu monnaie. L'alcool qui lui montait au cerveau, en ardente bouffée, semblait l'avoir momentanément apaisé. Il respirait avec délice l'air frais du soir. « Bah !» murmura-t-il. « Il me viendra peut-être une bonne idée. » Il regagna lentement le Family House de Mistress Clifton, où il occupait une petite chambre sous les toits. Il se leva de très bonne heure le lendemain, espérant sortir de l'établissement sans être vu. Mais il avait compté sans son hôtesse. L'Écossaise avait été plus matinale encore que son pensionnaire. Elle se trouvait déjà dans le parloir quand il entra. « Je vous souhaite le bonjour, » lui dit-elle aimablement. « Bonjour, Mistress Clifton. J'espère que vous avez bien dormi. »« Admirablement. » Puis, changeant brusquement de ton. « Alors, je compte sur vous pour ce soir. » C'est entendu. Vous pouvez apprêter ma petite note. Sitôt que j'aurai touché mes commissions, mon premier soin sera de venir vous payer. » Rassurée par le ton de sincérité avec lequel cette promesse avait été faite, l'Écossaise prit congé de son débiteur, qui gagna la rue au plus vite. Dehors, il se mêla à la multitude des travailleurs qui se dirigeaient en hâte vers les bureaux et les usines. Mais il était visible à sa démarche indolente qu'il n'avait aucun but. Avec les derniers sous qui lui restaient, il but un verre de café et mangea un sandwich dans un bar en plein vent. Puis il se dirigea vers une petite bibliothèque publique située près de Brooklyn et que ne fréquentait guère qu'une 10aine de vieillards désœuvrés. Il s'assit dans le coin le plus sombre et, la tête dans ses mains, de façon à ce qu'on observât ses traits le moins possible, il se plongea dans la lecture d'une traduction de la chimie de Berthelot. Il demeura ainsi toute la journée, complètement absorbé en apparence par l'étude des synthèses des corps organiques. Mais vers 6 heures, on ferma la bibliothèque. Il se retrouva de nouveau dans la rue. La nuit venait à grands pas. Une pluie fine s'était mise à tomber. Tout au long des immenses avenues, les lignes étincelantes des globes électriques s'allumaient. L'homme grelottait de froid dans son habit râpé. Il avait faim. Ah, fini le crédit chez la mère Griffon, fit-il avec un ricanement amer. Et plus 1 dollar. J'aurais peut-être pu faire durer mon argent 1 jour de plus, mais à quoi bon? Un peu plus tôt ou un peu plus tard? Qu'importe. Il grinça des dents avec rage. Ne pas pouvoir dépenser un farthing et crever de faim quand on possède des millions! Quelle situation stupide! Il continuait à marcher lentement. À sa colère, succédait tout à coup un abattement profond. « Où aller maintenant ? » murmura-t-il avec découragement. « Je serai ramassé comme un vagabond, identifié, fouillé. Et alors ?» À ce moment, un crieur de journaux passa près de lui en hurlant à tue-tête l'édition du soir du New York Advertiser. Machinalement, l'homme porta la main à la poche de son gilet. Ses doigts rencontrèrent une pièce d'un cent. C'était tout ce qui lui restait. « Je ne me croyais pas si riche !» balbutia-t-il avec ironie. Il jeta la pièce de cuivre au camelot, prit le numéro de l'advertiser qu'on lui tendait et se mit à le parcourir distraitement à la lueur d'un bec de gaz. Un titre énorme attira tout d'abord son attention. « Nouveau détail sur l'assassin Baruch Jorgel !» Il haussa les épaules et il allait rejeter le journal avec colère quand, au bas de la première page, ses yeux tombèrent sur l'entrefilet suivant, qu'il lut aussitôt avec une attention suraiguë. Un nouveau miracle du docteur Cornelius Cram. Depuis que l'éminent praticien qu'on a surnommé à juste titre le sculpteur de chair humaine a quitté Jorgel City pour s'installer à New York, dans son somptueux établissement de la 10e avenue, il ne se passe pas de jour qu'il n'opère quelque guérison quasi miraculeuse. voici la dernière de la série. Tout le monde a lu dans nos colonnes le récit des exploits de l'honorable colonel McDolmar lors de la dernière expédition américaine aux îles Philippines. On sait que cet héroïque soldat avait dû prendre sa retraite à la suite d'une blessure particulièrement grave. Un shrapnel lui avait emporté le nez et la moitié de la joue droite, en le défigurant atrocement. Les princes de la science avaient été unanimes à déclarer qu'il était impossible de remédier à une pareille mutilation. Le colonel McDolmar était réduit à porter une sorte de demi-masque en argent du plus disgracieux aspect, et il avait dû se résigner à demeurer ainsi défiguré pour le restant de ses jours. Ces derniers temps, sur le conseil de quelques amis, le colonel eut l'idée d'aller consulter le docteur Cornelius Crane, et sur les formelles assurances que lui donna ce dernier, il se confia entièrement à ses soins. Au bout d'un mois de traitement, le résultat a dépassé toute espérance. De l'effrayante mutilation, il ne reste plus qu'une légère cicatrice blanchâtre de forme circulaire. L'illustre docteur est arrivé à refaire complètement le nez et la joue absents. Une fois de plus, il a justifié le bizarre et glorieux surnom de sculpteur de chair humaine. Le colonel McDolmar, si bien guéri, qu'il est actuellement fiancé à une jeune et charmante héritière, a récompensé le docteur Cram de ses soins par le don d'un chèque d'une valeur considérable. L'homme relut une seconde fois cette habile réclame, et tout de suite sa résolution fut prise. « J'irai, s'écria-t-il, c'est le seul espoir qui me reste. Cornelius Cram est le seul homme qui puisse me sauver, s'il le veut. » L'inconnu plia soigneusement le numéro du New York Advertiser et d'un pas délibéré prit le chemin de la 10e avenue. Au bout d'une demi-heure de marche, il faisait halte devant une luxueuse propriété entourée de hautes murailles et fermée par une monumentale grille de fer forgé. Au moment d'appuyer sur le bouton de la sonnerie électrique, le nocturne visiteur eut un instinctif mouvement de recul. Il avait la vague sensation qu'il allait pénétrer dans l'antre de quelque bête féroce, d'où peut-être il ne sortirait plus jamais. « Allons, murmura-t-il, il le faut. » Il sonna. Un lad, vêtu de noir, chaussé de molleton, d'une correction glaciale, ouvrit la porte et toisa le nouveau venu d'un air soupçonneux. « Que désirez-vous ? » demanda-t-il. « Je voudrais voir monsieur le docteur Cornelius Cram. »« Impossible, monsieur. Il faut demander d'avance une audience par lettre. » Le visiteur parut extrêmement contrarié. « C'est que, balbutia-t-il, il s'agit d'une affaire grave, d'une affaire qui ne souffre pas de retard. » « Je regrette, mais ma consigne est formelle. »« Attendez !» s'écria l'inconnu avec une sorte de désespoir. « Je suis un ami du docteur. Il faut absolument que je lui parle. Veuillez lui remettre ce mot de ma part et je suis sûr qu'il me recevra. » Il avait arraché une feuille de son carnet. Il y griffonna quelques lignes et l'étendit au domestique toujours hésitant. « Voilà, vous donnerez cela au docteur. » L'Irlandais avait pris la feuille de papier de mauvaise grâce. Il guida le visiteur obstiné jusqu'à un petit salon d'attente où il le laissa. Il revint quelques minutes après, la mine surprise. « Monsieur le docteur, dit-il d'un ton beaucoup plus respectueux, a dit qu'exceptionnellement il consentait à recevoir monsieur. Que monsieur veuille bien me suivre. » Il précéda le visiteur jusqu'à un luxueux salon orné de tableaux de maître, de statues de bronze et garni de meubles Louis XIV d'une magnificence imposante. L'Irlandais avait disparu. Presque aussitôt, une petite porte, dissimulée dans la boiserie d'ébène, s'ouvrit silencieusement. Un personnage à face osseuse, aux yeux fixes et cruels comme ceux des oiseaux de proie, derrière de larges lunettes à branches d'or, entra lentement. Les deux hommes se regardèrent quelque temps en silence. On eût dit que chacun d'eux hésitait à prendre la parole le premier. « Par que j'orgueule ?» dit enfin le docteur d'une voix grave. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Et comme l'assassin se taisait, devenu tout à coup mortellement pâle. Baruch Jorgel, répéta le docteur de la même voix solennelle, pourquoi êtes-vous venu vous réfugier chez moi? Et où voulez-vous que j'aille? S'écria Baruch avec l'énergie du désespoir. En quel autre lieu un misérable tel que moi trouverait-il asile? Rappelez-vous qu'autrefois. Cornelius lui imposa silence d'un geste. Autrefois n'est pas aujourd'hui, fit-il. Il n'y a rien de commun entre nous. Vous pouvez me causer de graves ennuis. Je suis sans argent, sans asile, chassé de partout, traqué comme une bête fauve. On peut vous avoir filé jusqu'ici. Les policemen sont peut-être là, dehors, qui vous attendent. Je me compromettrai sans vous sauver. Allez-vous-en. Vous ne me chasserez pas ainsi, c'est impossible. » Il ajouta vivement. « D'ailleurs, je suis en état de rétribuer le service que vous allez me rendre. »
« Oui, » fit l'autre sarcastique. « Je devine de quelle manière. Avec les diamants du chimiste français, n'est-ce pas ?»«
Regardez, » dit simplement Baruch. Déboutonnant son pardessus, retroussant son veston, il détacha de ses reins une pesante ceinture de cuir. Il en déboucla les agrafes et il en vida le contenu sur le tapis de table. Des diamants énormes, des rubis, des émeraudes s'éparpillaient. Ce fut un éblouissement. Cornelius regardait les gemmes d'un œil de convoitise. « Vous voyez cela, » reprit Baruch d'une voix incisive. « Eh bien, j'en possède encore autant dans les poches secrètes de mon pardessus et de mon veston. »
« Une vraie fortune, en effet, » fit Cornelius avec une raillerie mordante. « Malheureusement, ce doit être difficile à négocier, surtout dans la situation où vous vous trouvez. C'est une situation assez originale que de mourir de faim quand on a dans ses poches de pareilles pierres.
« Écoutez, ne vous moquez pas de moi. Je vous ai fait voir mon butin. Vous me connaissez, je suis à votre merci. »
« C'est assez mon opinion. » ricana le docteur.
Je suis réduit aux pires extrémités, désespéré, tellement à bout de force, tellement las de vivre d'expédients, avec des millions dans ma ceinture, que je suis résigné à tout. J'en suis presque arrivé à dire « Livrez-moi la justice et gardez mes diamants. Tout, plutôt que de continuer une pareille existence. »
« Eh bien, non, » s'écria tout à coup Cornelius, dont la face squelettique grimaça une sorte de sourire. « Ce n'est pas à moi qu'il appartient d'être votre juge. » Et non seulement je ne vous livrerai pas, mais je vous donnerai asile et je vous associerai à des entreprises grandioses. Vous vous rendez compte maintenant, n'est-ce pas, que votre sort est entre mes mains ?»«
Pas tant de phrases, » répliqua Baruch Jorgel d'un ton bourru. « Je suis à votre merci, je le sais. »«
Sans doute, » murmura le docteur dont les prunelles d'oiseaux nocturnes étincelèrent. Et il continua d'une voix radoucie. « Je n'abuserai pas de la situation. » Mais je veux que vous compreniez qu'il est de votre intérêt de faire ce que je vous dirai. Nous devons être des collaborateurs et non des complices.
J'obéirai. J'y suis forcée. Mais de quoi s'agit-il?
Je n'en sais rien moi-même exactement. Je veux seulement trouver une utilisation aux qualités d'énergie, d'audace, de sang-froid et d'intelligence que vos dernières aventures ont mises en relief. Dans quelques mois, « dans quelques jours, peut-être, j'aurai trouvé la bonne idée que je cherche. »
Baruch poussa un profond soupir. Il se sentait délivré d'un poids immense. « Et les diamants ? » demanda-t-il après un silence.
« N'ayez aucune inquiétude à cet égard. Les diamants vont être taillés par des ouvriers hollandais dans les ateliers de mon frère Fritz Kram, puis ils seront sertis dans des montures anciennes et vendus tout leur prix. » « Croyez-le bien. Mon frère les écoulera petit à petit dans ses succursales d'Europe. »«
Mais que me reviendra-t-il à moi ?»«
Je pourrais vous répondre rien. La vie sauve et l'impunité valent mieux que les plus beaux diamants de l'univers. Mais rassurez-vous, je vous le répète, je ne veux pas abuser de la situation. Je vous tiendrai compte exactement de toutes vos pierreries. » Le prix de vente sera partagé entre vous, moi et mon frère. Cela est assez naturel, je pense. »
Tout en parlant, Cornelius Kram s'amusait à ramasser une à une les gemmes éparpillées et à en former une sorte de pyramide qui étincelait à la lueur des becs électriques. Mais il s'interrompit brusquement de cette occupation et se tournant vers Baruch Jorgel qui demeurait pensif.
« Vous devez avoir besoin d'argent, » fit-il.
« Je vous ai déjà dit qu'il ne me restait pas un dollar. »«
Voici une banque-note de 1 000 $, mais il est probable que d'ici longtemps, vous n'aurez pas l'occasion d'en faire usage. »«
Et pourquoi cela ?»«
Parce qu'il est indispensable à votre sécurité même que vous ne sortiez pas d'ici jusqu'à nouvel ordre. Il faut qu'on vous oublie et que votre personnalité même soit complètement modifiée. »
Cornelius n'acheva pas. Un bruyant éclat de rire venait de retentir à l'autre extrémité du salon. Baruch et le docteur se retournèrent d'un même mouvement. Vers eux s'avançait un gentleman élégamment vêtu,
à la physionomie cordiale et souriante. C'était Fritz Kram, le célèbre marchand de tableaux, le frère du docteur. « Pour ce qui est de modifier la personnalité des gens, » dit en riant le nouveau venu, « cela rentre dans la spécialité de mon frère. » Et saluant Baruch avec une aisance parfaite. « Enchanté de vous voir, Master Jorgel, » fit-il. Baruch soupira. Il se sentait le cœur serré par l'angoisse. Depuis qu'il était entré dans la demeure du sculpteur de chair humaine, il comprenait que sa destinée n'était plus entre ses mains. Les deux frères s'entretinrent quelque temps ensemble, à voix basse. Puis, le docteur, s'avançant vers Baruch, lui dit simplement « Maintenant, vous êtes ici chez vous. À demain. Ce soir, je suis obligé de sortir. Je vais donner aux domestiques des ordres à votre sujet. » Les deux frères se retirèrent. Un quart d'heure après, Baruch Jorgel, complètement rassuré, dormait à poings fermés dans une confortable chambre donnant sur les jardins. Il était sûr que la police new-yorkaise ne viendrait jamais le chercher là.
Fin du deuxième épisode.